variations en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le premier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro. Vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec son ex-président Hervé Delouche, qui est avec nous au téléphone depuis un coin paumé de la campagne française. Hervé, bonjour et merci de nous accorder un peu de ton temps de congé.
Ravi d'être avec vous.
Au sommaire de ce Variation en noir du mois de mars 2017, un roman paru aux éditions Alia, L'été des charognes de Simon Johanna, et un récit ou un carnet de route ou encore un manuel de l'écrivain voyageur ou anti-manuel de l'écrivain voyageur, nous y reviendrons, le livre que vient de publier Caryl Ferré, Pourvu que ça brûle, chez Albin Michel. Mais avant tout, Hervé, nous voulons évoquer Roger Knobelspies, ancien braqueur, écrivain, mort le 19 février dernier. Roger Knobelspies est mort donc à l'âge de 69 ans. Il faut rappeler qu'en 72, il a été condamné à 15 ans de réclusion pour un vol de 800 francs qu'il nie. En 80, il publie QHS, qui est Quartier Haute Sécurité, son premier livre. Il sort de prison en 90. Il a été à un moment un peu le symbole d'un mouvement intellectuel, culturel en France dans les années 70-80 contre les prisons et contre les conditions de vie des détenus dans les prisons particulièrement dures. Et il a eu d'autres démêlés avec la justice et donc il est mort le 19 février dernier. Hervé.
Oui, Roger Knobelspies, on peut quand même rappeler qu'il a grandi à Elbeuf, dans l'Eure, chez les sous-pauvres, en fait, hein, dans des baraquements de ce qu'il s'appelait avec une certaine ironie, le marché aux fleurs. Il raconte ça très bien dans un de ses romans, Voleur de poules, qui était paru chez Flammarion. Il était le produit d'une société, disons, produisant de la misère. Il a commencé avec pas d'issue sociale, il a commencé avec des chapardages, enfin des trucs comme ça, bon et tout. Effectivement, il est embastillé, il a 25 ans et il prend, comme tu dis, je sais plus, 12 ou 15 ans de...
Oui, 15
de
ans.
Et pour un braquage qu'effectivement il nie, il a toujours nié. Bon, il s'est évadé en 76. Là, à partir de là, évidemment, il a commencé à réellement braquer. Et puis, en prison, il écrit QHS, qui paraît en 1980, et qui va être effectivement une espèce de manifeste que va d'ailleurs préfacer Michel Foucault, ce qui n'était pas tout à fait rien, qui faisait un livre qui n'était pas seulement celui d'un prisonnier sur la prison en général, mais qui venait d'un point névralgique du système pénitentiaire. Et à partir de là, ce livre va être effectivement va fédérer toute une série d'intellectuels qui sont pas du tout du même monde que Roger Knobelspies, mais qui sont à une époque où les intellectuels se mobilisaient pour quelque chose, révolu donc, et qui vont se faire le porte-voix de ce livre qui a eu une importance considérable. Knobelspies sera gracié par Mitterrand en 81, je crois.
Ouais.
Et par ailleurs, les QHS seront abolis, même si leur devenir sera les quartiers d'isolement, qui ne sont pas forcément particulièrement une excellente chose. Mais bon, il a eu vraiment une très grande importance. Il écrivait, il avait en plus, Knobelspitz, il écrivait, il avait une belle écriture, à un moment justement évoquant le, quand il dénonçait le quotidien des prisonniers, il les disait, ceux des QHS coulés à vif dans des tombeaux de béton. Et il a écrit, en dehors de ce livre manifeste, il a écrit des romans plutôt réussis, dont justement je conseille Voleur de poules, qui m'a laissé un assez vif souvenir. Et puis voilà, il a bon après il a eu une, il a recommencé, il a refait les braquages, il est retombé, il a été enfin libéré. Enfin bref, l'existence carcérale s'est arrêtée. Il est devenu écrivain. Et on le voit aussi dans un certain nombre de films, notamment de celui qui était devenu son pote, Jean-Pierre Mocky. Mais il a aussi joué dans Capitaine Conan de Tavernier, pour quelques autres réalisateurs intéressants. Et c'était pour quelqu'un qui était né, j'allais dire dans cet endroit où on vous fait courber la tête. C'est quelqu'un qui l'a en tout cas, quelle que soit la manière choisie, qui l'a relevé toute sa vie.
Alors Hervé, j'avais reçu un livre des éditions Alia que je n'avais pas, sur lequel je ne m'étais pas précipité, L'été des charognes de Simon Johannin, et j'ai suivi tes conseils, puisque toi tu l'as lu très rapidement, ce livre. Hein,
J'avais été moi-même, c'est ça qui est bien, c'est cette chaîne qui existe, j'avais été moi-même alerté par un ami organisateur du festival du Goéland masqué, voilà.
Voilà, donc, et nous nous sommes dit qu'il fallait absolument que nous parlions de ce livre. Donc, L'été des charognes de Simon Johannin aux éditions Alia. Un petit mot, peut-être avant de commencer, par rapport aux éditions Alia, Hervé. Alors, c'est toujours délicat de dire un petit éditeur, mais enfin, bon, on s'entend, hein, c'est quand on compare.
Nous.
Voilà. Quand on compare à Gallimard, etc., c'est de ce point de vue-là, mais avec toujours des petits bijoux qui nous proposent. Alors, plus souvent des rééditions ou des textes sortis un peu de nulle part, rarement quand même plus rarement des romans, des romans inédits.
Dans le domaine noir mais large qui nous intéresse, on avait évoqué déjà ici Dashiell Hammett et ses interrogatoires, Harry Cruz, Valdez, je crois.
Oui, tout à fait.
Voilà, qui sont des livres, des espèces de petites perles comme ça que déniche Alia. Mais effectivement, là, on est dans un premier roman, et quel roman ! Je vais te laisser y aller parce que j'ai même un peu de mal à en parler tellement je pense. Enfin, on va y arriver, mais c'est pas uniquement un coup de cœur, c'est quelque chose qui a.
C'est un coup de.
Qui laisse assez KO quand même.
C'est ce que j'allais dire, c'est un coup de poing, hein, plus qu'un coup de cœur.
Ah oui.
Alors, un roman qu'on peut couper en deux parties claires, nettes. Une première partie, donc l'enfance d'un garçon dans un coin paumé de la campagne française.
Oui, je crois que ça doit être dans le Tarn ou quelque chose comme ça, mais alors on est vraiment au bout du bout, au fond du fond, voilà.
Avec, quand on en a parlé tous les deux, on a pensé à des romans du type Fantasia chez les Plouks, de Charles Williams. L'éditeur, dans son dossier de presse, évoque une forme de guerre des boutons.
Mais alors chez les rednecks français, avec une âpreté plus plus forte que chez Louis Pergaud ou le film ou les films qui en ont été tirés.
Oui, ouais, moi je penche plutôt du côté quand même Charles Williams, d'autant plus que c'est donc un gamin hein, qui se raconte et qui raconte sa vie à la campagne, dans un coin paumé, des gens qui se débrouillent mais qui travaillent beaucoup, donc les enfants contribuent. On vit dans un milieu assez clos, mais quand même avec certaines solidarités. La vie est très dure, mais aussi on sait aussi beaucoup rigoler. Puis on prend beaucoup de liberté avec justement cette vie. Hein. On a l'impression que ces gens sont en dehors un petit peu de la société. Les parents, quand ils se rencontrent, ils boivent beaucoup. Ce sont les enfants qui les ramènent, qui conduisent les voitures hein, dans
oui,
la campagne.
Voilà,
il y a des scènes.
Gamins, quand même, voilà, il y a des. La bagnole parce que les parents sont, ils sont.
Donc,
totalement hors service. Oui.
Voilà, il y a une première partie donc où.
Oui, il y a une chose. Ça rejoint vraiment ce que tu disais. Ce côté fantasia chez les Plouks ici mêlé un peu à certains romans comme on peut en trouver chez la néo-noire de Gallmeister ou autre, hein, etc. Mmh. C'est-à-dire des gens un peu en dehors quand même. Mais c'est que c'est raconté par ce gamin. Il raconte son quotidien avec un grand naturel. C'est sans phare, alors là absolument. Il n'y a pas d'état d'âme non plus. Et puis ça évoque cet environnement tout à fait poisseux. On est au milieu des mouches qu'il y a partout parce qu'il y a quand même beaucoup de. Il fait chaud, c'est l'été des charognes. Il y a beaucoup de carcasses, de brebis, de chiens.
Ah oui.
Il y a les baffes paternelles, il y a de la crasse, il y a des beuveries, en veux-tu, en voilà. Et il y a aussi dans tout ça, il y a évidemment de la violence, il y a de la dureté, il y a de la drôlerie, et il y a une certaine douceur parfois. Il y a aussi un amour, mais qui ne s'exprime évidemment pas par de grandes embrassades. Et c'est tout cette partie comme ça de cette enfance dans ce coin qui est appelé la fourrière, je crois, et c'est vraiment des pages magnifiques, avec quelque chose de rare quand même dans les romans, qui est la puissance d'un appel au sens et à l'odorat, tout particulièrement.
Oui, alors j'ouvre le livre au hasard et je tombe sur cette phrase, Hervé, donc le grand conseil hein, du père du narrateur, c'est « si tu sais boire, mon fils, tu sauras tout faire ». Bon, il y a beaucoup de dérision, d'auto-dérision hein, par rapport à cet aspect-là, c'est en fin de compte, la confrontation à une vie dure, quand même.
Totalement.
Avant tout. Hein, la vie dans un monde rural, vie de campagne, c'est surtout ça. Et en plus, on se situe quand même. C'est un roman qui doit se dérouler il y a quelques années. Quoi. Ça se passe pas en 2000, en 2016 ou en 2017. Alors, une première rupture.
Il y a une chose, mais de toute façon, qui est valable parce qu'on la retrouve dans cette deuxième partie que tu vas évoquer. Mm-hmm. C'est aussi que tu disais tout à l'heure, j'ouvre un peu au hasard, et effectivement, c'est par ailleurs un livre qu'on peut, après, une fois qu'on l'a lu, réouvrir au hasard parce qu'il y a quand même, et ça c'est absolument remarquable chez ce Simon Johannin, pour un premier roman, il a 23 ans, Simon Johannin. C'est un premier roman qui fait 140 pages et qui est, à travers tout ça, toute cette situation de cette enfance, de tout ce qu'on a dit jusque-là, qui est d'une poésie des phrases, qui a des fulgurances. C'est en fait que je trouve ça vraiment splendide quand même.
Alors, il y a une première rupture, avant même peut-être la deuxième partie que nous évoquions, c'est l'arrivée à l'école ou au collège. Avec une mise un peu en quarantaine de ce jeune et de ses amis, hein, ils sont deux ou trois à venir là, de ce village de nulle part, qui sont considérés...
Ils viennent du quart monde, quand
voilà,
même.
Hein, enfin, sont, et puis, ouais, ils sont aussi considérés comme des bouseux. Hein, c'est plus que ça. Et donc une prise de conscience, en fin de compte, d'une société où tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'occuper la même place.
Bah oui, totalement, totalement. Et puis comme il dit, à un moment, par ailleurs, ils ont appris à chaparder, à voler des Kit Kat à l'épicerie du village quand ils étaient petits. Ils vont un petit peu continuer, disons. Voilà, mais effectivement, on sent.
Autant dans la première partie,
c'est un peu le hasard des choses, mais on parlait de l'enfance de Knobelspitz tout à l'heure.
Voilà.
Dans les baraquements aux lisières d'Elbeuf, on est dans un autre type d'exclusion et de révolte à sa manière d'un personnage qui grandit, oui.
Mais autant les chaperonnages que tu évoques relèvent plutôt du jeu, autant ce qui se passe à partir du moment où il y a cette confrontation à une vie de ville, etc., c'est plus du jeu. Hein, on passe dans... Voilà, et donc on en arrive à la deuxième partie, donc on peut évoquer l'adolescence, le jeune homme, le narrateur devient jeune homme, et là alors donc change, enfin bon, je considère un changement de style. C'est je pense que c'est là qu'on prend vraiment le coup de poing, quoi, parce que on s'enfonce dans le parcours d'un jeune qui découvre des drogues, et puis les drogues du pauvre, hein, c'est toujours la même chose, et qui plonge complètement.
Bien sûr, tout à fait, comme tu dis, où on fait la queue sur un terrain de basket qui est pas en trop bon état, où on fait la queue pour avoir sa dose après les autres, etc. C'est effectivement là on bascule dans cet aspect-là, moi, et je crois qu'on a eu absolument le même réflexe dans cette partie-là, avec le style très propre de Simon Johannin, très propre à Simon Johannin, mais ça m'a un peu rappelé de belles pages de La Fossoyeuse d'Éric Maravellias, qui s'est paru en série noire, dont on a parlé ici aussi,
ouais,
je crois. Enfin, je me trompe pas, quand t'as pensé à ça aussi.
Oui, mais bien sûr, hein, on en a parlé. En fin de compte, donc, on peut le dire peut-être une première partie où on est peut-être dans une histoire hallucinante, enfin qui soumet le lecteur à quelque chose d'un peu dingue. Et la deuxième partie, là, on est face à une écriture hallucinée. Enfin, l'écriture est à l'image de ce que vit ce jeune homme. On est vraiment dans une écriture hallucinée.
Complètement. Et tout ce qui était cette espèce de, même si c'était particulièrement rude, tout ce qui était cette, malgré tout, cette espèce de douceur ou d'humour un peu du récit d'enfance a disparu. Voilà. J'ai repris la direction du centre, les yeux collés et la laine lourde comme une plaque d'égout, en maudissant la sale race d'où ils viennent tous, les dealers et les flics. On avançait dans l'automne, mais il faisait encore très chaud. Comme je cherchais un endroit presque frais pour fumer tout ça, j'ai fini par me poser sur les marches d'une église. Assis sous le porche, j'ai roulé une première fois en me demandant qu'est-ce que j'allais pouvoir trouver comme raison pour ne pas sauter dans le vide comme un lemming. J'ai allumé la mèche tout en laissant couler la bière au picon dans ma bouche par grands traits poisseux.
Oui, exactement. Cet aspect du vide est très, très présent dans cette deuxième partie.
Oui.
La relation entre le vide et puis le personnage, le vide de sa situation, de cette drogue qui l'empoisonne. Il en a conscience, mais voilà.
Mais oui.
C'est comme ça.
Voilà,
Hervé, donc là, nous avons vraiment envie de faire partager cette lecture. Alors,
ah, L'été des charognes de Simon Johannin chez Alia,
ouais.
Voilà, 140 pages.
Alors, on va quand même signaler, alors tu l'as dit, effectivement.
Absolument.
Voilà, tu l'as dit, hein, l'auteur, il est né en 93, donc c'est un jeune auteur, c'est un premier roman, c'est vraiment surprenant. Alors, effectivement, il est né dans le Tarn, à Mazamé, hein, nous dit le dossier de presse. Il a grandi dans la Montagne Noire, où ses parents sont apiculteurs, enfin... Ils tiennent une exploitation. Alors lui, il a quitté le domicile parental à 17 ans. Il s'est installé à Montpellier pour suivre des études de cinéma à l'université. Il a travaillé ensuite en intérim, vendeur de jouets, avant d'intégrer l'espace urbain de l'école de la Cambre à Bruxelles. Il travaille comme mannequin aussi pour l'industrie de la mode. Un parcours très, très particulier pour ce jeune homme, donc de 23 ans, 24 ans, qui a son actif déjà un premier roman qui ne devrait pas passé, je l'espère, inaperçu. Alors, il faut aussi le signaler, mais c'est la particularité des éditions Alia, c'est un livre qui coûte 10 euros. C'est un roman, bon, alors, ce sont, Alia en général, ce sont des, entre guillemets, encore une fois, des petits livres, hein, en nombre de pages, en taille, mais ben, grand pour, par la lecture. On peut signaler, tu l'as dit, hein, effectivement, que Alia nous avait donné les interrogatoires d'Achille Lamette, mais il nous avait donné aussi La mort, c'est pour les poires. Donc là, c'était en grand format, hein, toute la correspondance de Achille Lamette.
Et puis voilà, pour qui est ressorti en point seuil.
Voilà. Et puis pour faire un clin d'œil par rapport à l'actualité. En France, il y a deux petits bouquins qui viennent de sortir chez Alia, parmi d'autres. Hein. Donc des rééditions à chaque fois, ou des textes issus d'un peu nulle part, mais qu'il est vraiment... très très intéressant de parcourir. Note sur la suppression des partis politiques de Simone Veil et d'Octave.
Une lecture indispensable en ces temps.
Voilà, et le deuxième, hein, que j'ai repéré, La grève des électeurs d'Octave Mirbeau. Voilà, donc on vous invite.
Nous n'en dirons pas plus.
Voilà, on vous invite donc à lire tout ce qui est édité aux éditions Alia, et en particulier là, récemment, L'été des charognes de Simon Johannin. Vous écoutez Radio PFM, Variation en noir, émission mensuelle consacrée aux littératures policières avec la collaboration de l'Association des Amis des Littératures Policières 813 et d'Hervé Delouche. Alors, Hervé, avant De dire un mot sur le morceau qu'on vient d'entendre. Bernard, qui nous accueille dans son émission et qui assure la technique de cette émission, à nous écouter parler de Simon Johanna, m'a dit que ça lui faisait penser une ambiance cinématographique de Bruno Dumont. Et c'est vrai qu'on pourrait très bien imaginer Bruno Dumont s'emparer de cet ouvrage pour en faire un film.
Ah, c'est une très bonne idée, il faut pousser la suggestion.
Voilà. Donc, on remercie Bernard pour cette remarque. Alors, le morceau, hein, je pense que vous avez reconnu, c'est The Clash. Alors, pas forcément l'album, un extrait de l'album le plus connu, c'est l'album alors, qui porte un titre très, très embêtant pour quelqu'un comme moi qui a de grosses difficultés avec la prononciation de la langue anglaise, Give 'em an Ukrop. Donc,
oui, voilà.
Je pense qu'il y a plein de
c'est
gens
très
qui
bien
disent.
Choisi, c'est pas l'album le plus connu, j'imagine. Que
voilà, c'est le deuxième album, moi c'est mon préféré. D'ailleurs, en préparant cette émission, je l'ai réécouté un petit peu pour choisir le morceau. Et puis, impossible de choisir un morceau parce que bon, c'est un album que j'ai écouté dans les années. Il sortit en 78. Que j'écoutais dans les fin des années 70, début 80, j'aimais tous les morceaux et j'aime toujours vraiment tous les morceaux, donc j'ai pris le premier un petit peu comme ça, mais vraiment l'album.
Tu as eu raison parce que celui-là, le premier album des Clash, celui qui commence par Jenny Jones, et celui-là sont mes préférés, donc ça me fait très plaisir.
Voilà, donc.
Mais de toute façon, ça me semble une assez bonne transition. Enfin, je veux dire que entre Simon Johanna et Caryl Ferret, on aurait difficilement mis du Cat Stevens, je pense, quand même.
Un Clash, c'est bien entendu un clin d'œil à Caryl Ferret. Qui nous donne un livre, hein, ce que je disais, ce n'est pas un roman, c'est un récit. Alors c'est présenté comme ça par l'éditeur, qui évoque aussi un carnet de route. En terminant ce livre, je me suis dit que ça pouvait être aussi perçu comme un manuel de l'écrivain ou un anti-manuel de l'écrivain voyageur, parce que je pense que Caryl Ferret est plus un écrivain baroudeur qu'un écrivain voyageur. En tout cas, c'est un. Alors, pour parler un petit peu cinéma, making-of, ou je sais pas, comme dans certains DVD, hein, quand on regarde un film, après il y a des bonus. Un bonus qui permet de décrypter le travail d'écriture de Caryl Ferret, de toute sa carrière, hein, de son premier roman paru à la Série Noire, Plutôt crevé, en 2002, au tout dernier, Condor, paru aussi à la Série Noire en 2016. Enfin, Plutôt crevé, ce n'est pas son premier roman en tant que tel, mais c'est le premier qu'il édite chez un éditeur de collection.
Oui, parce qu'avant, il y avait eu à Balle d'Argent, un petit éditeur breton, je sens.
Voilà.
Et puis il y avait eu AKA, la première version d'AKA qui était sortie chez Baleine, mais à un moment où Baleine n'allait pas très bien. Oui, tout à fait.
Alors, Hervé, nous avons 4-5 minutes hein, pour parler de ce livre, ça va être court.
Alors, on va faire court.
Ouais. Peut-être nous y reviendrons, parce que c'est un peu comme l'album de Clash. Hein. Des cornes à pas toutes les pages, mais j'ai énormément de cornes. Il y a plein de choses qu'on a envie de ressortir de ce livre, des anecdotes, mais aussi une réflexion, puisque il y avait un certain nombre de choses que l'on connaît de la vie de Caryl Ferret, puisqu'il a déjà écrit une sorte de récit autobiographique, comment devenir écrivain quand on vient de la grande plouquerie internationale, c'était paru aux éditions.
Oui.
Voilà. Mais donc vraiment, beaucoup de choses, des points de rencontre personnels, les clashs, mais bon, c'est son inspiration littéraire, la littérature américaine, la littérature.
Oui, c'est-à-dire que quand il était jeune, très jeune, Joseph Kessel et Jack London,
voilà.
Les découvertes de John Fante et James Cromley, Philippe Dian, la fulgurance politique de René Char, les analyses politiques de Noam Chomsky sur sur la politique criminelle des États-Unis. Enfin bon, voilà, il y a les rencontres littéraires, et c'est un écho un peu à tout ce qui est Caryl Ferret. Il fonctionne justement à des rencontres et à des flashs comme ça, des choses fortes qui se passent sur le long de la route avec les gens rencontrés, que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Amérique latine, etc. Enfin, voilà, c'est comme tu le disais, bon, de toute façon, pour qui connaît un peu Caryl Ferret, c'est tout sauf un écrivain qui aurait choisi un créneau exotique, mais c'est quelqu'un qui va voir, qui retourne, et puis il y a les rencontres le soir, les rencontres dans des endroits où on s'alcoolise un petit peu, où éventuellement on prend d'ailleurs d'autres choses, et puis il y a comme ça des flashs très forts et puis des histoires qui arrivent et puis des personnages qui vont peupler un livre qui était déjà en gestation, des fois ça peut même être une araignée qui soudain va prendre un rôle dans un roman, enfin bon, voilà, il y a ça. Si on a 2 minutes, trente secondes, il y a un chapitre qui s'appelle Au cœur du volcan, et qui commence ainsi, et je trouve que c'est bien Caryl. Au fond, rien n'a changé. Pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit. Édité ou non, le seul critère est la ferveur qu'on y met. J'ai été assez longtemps écrivain au chômage pour mesurer la solitude de l'auteur livré à lui-même devant son écran. Elle reste la même qu'un éditeur attende votre texte ou non. La seule chose qui compte est de parvenir à retranscrire correctement ce qui nous brûle la cervelle. Le syndrome de la page blanche est pour moi une vaste blague. Malgré le temps et l'énergie que j'y mets, je n'ai jamais assez d'heures pour écrire. Tous les jours, je maugrais parce qu'il faut que j'arrête. Grésillant comme un poteau électrique défoncé le long de la piste, je n'ai jamais mis de limite à mes rêves, mais mesure la chance que j'ai de pouvoir voyager pour écrire. Et je trouve que cette image du poteau électrique grésillant, c'est bien Caryl Ferret. Et c'est bien ses romans.
Oui, ici sur Arras, on le connaît, hein, Caryl. Bon, il a eu le prix Ami Lamekir pour Zulu. Il vient régulièrement le 1er mai. J'espère qu'il sera là aussi encore une fois cette année. L'an dernier, il était à notre micro, Hervé, le 1er mai. Hein. Et donc, oui, tout à fait. Et donc, ça, c'est un aspect important de ce livre. C'est son rapport à l'écriture. Et il démontre, bon, on le savait déjà, il l'avait déjà dit, que cette écriture, quoi. Il n'arrête pas de reprendre. Il suit les conseils de ses éditeurs qui lui demandent parfois de. Ou c'est son éditrice, il y a beaucoup de. On la connaît, oui, en plus, son éditrice. Il y a beaucoup de petites notes.
Il y a des notes de l'éditrice et voilà. Ses droits de réponse à lui. Ouais. C'est très drôle. Oui,
et ça, donc, il est capable de reprendre un livre qu'il vient de proposer. Voilà, hein, parce que on lui dit que c'est trop sombre, c'est trop noir, c'est voilà, et donc il le reprend, il retravaille tout ça sans cesse. C'est vraiment, bon, moi c'est un livre que j'ai envie de conseiller à différents types de personnes, pour commencer peut-être à des jeunes, des ados qui sont peut-être un peu révoltés, un peu désabusés, un peu rebelles, hein, parce que bon, il y a cet aspect-là aussi chez Caryl Ferret. Il faut lire ce livre aussi pour comprendre quand même un peu mieux le travail d'écrivain de Caryl Ferret. Il y a vraiment chacun de ses romans qui sont décortiqués, comment il en est arrivé à écrire.
Comment il en arrive d'abord à l'écriture, etc. Parce qu'il n'est pas du tout né là-dedans. Hein, voilà. Et puis la genèse de ses livres, ça c'est bien, d'autant qu'en plus, c'est tout sauf intellectualisé.
Oui, tout à fait. Hein,
on est sur la route avec lui, quoi.
Voilà. Et puis peut-être aussi, pour des gens qui se disent, moi, j'aimerais bien écrire des livres, etc. C'est pour ça que je parlais de manuel ou d'anti-manuel. Et moi, je vais aussi citer un extrait vers la fin du livre. Plus je lis les livres de Nicolas Bouvier, écrit Caryl Ferret, L'usage du monde reste un chef-d'œuvre du genre, plus je perçois l'intelligence l'intelligence fine de ses remarques sur le voyage, le regard humain sans concession qu'il porte sur l'étranger en général, plus je doute de ma légitimité d'écrivain voyageur. Je n'ai pas son souci du détail, de la culture autochtone, m'attachant plus aux impressions, aux sentiments. On doute, oui. Et en fin de compte, c'est aussi quelqu'un qui nous montre toute sa sensibilité. C'est quelqu'un de hypersensible, sensible à ses, aux personnes qu'il rencontre, à son environnement, à sa bande, à ses amis. Il voyage en équipe, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est un travail d'équipe. Et du doute.
C'est une sensibilité qui lui permet d'incarner si bien des personnages, comme par exemple le couple Ruben et Rana de Mapuche, par exemple, enfin parmi d'autres, hein, mais je trouve, enfin voilà, qui sont ce côté avif, un peu, ça, il est, voilà.
Voilà, donc Carl Ferret, un punk, j'ai envie de dire, mais pas un au futur, quelqu'un qui croit en l'homme, enfin la femme, en l'homme, tout au moins en certains. Donc on conseille aussi, Hervé, cette lecture. Hein, donc,
ça absolument, qui est joliment titré pour lui, ça lui correspond très bien, pourvu que ça brûle chez Albin Michel. Jumping by bus or on the ground, for all, for all, the woman that was in a...
C'était Variation en noir sur Radio PFM. On se quitte toujours avec les Clash. Variation en noir, le premier vendredi du mois, une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec Hervé Delouche. Merci à Bernard de nous accueillir toujours aussi amicalement dans son émission. Hervé, au revoir donc, et rendez-vous.
Au revoir Guy, au revoir Bernard, et ben merci une fois de plus.
Et rendez-vous dans un mois pour de nouvelles Variations en noir. Très bonne lecture. En noir à toutes et à tous.